Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la ZAD, une anthropologie du futur, nature, culture, un anthropologue dessinateur dans le bocage, en immersion dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Notre invité, Alessandro Pignocchi, est un ancien chercheur en sciences cognitives et philosophie de l'art, reconverti dans la bande dessinée. Dans la recomposition des mondes, un roman graphique publié au Seuil dans la collection Anthropocène, il revient sur son expérience dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, un journal de bord, proche de l'essai d'anthropologie ou d'écologie politique. Il va nous dire comment il a souhaité le formuler. Bonjour.
Bonjour.
À quoi ça sert de faire une bande dessinée sur la ZAD ? Alain Damasio, auteur de science-fiction, dans sa postface de votre bande dessinée, parle d'une contribution aux imaginaires en cours. Alors le terme est à la fois très beau et ouvre tout de suite les portes de notre imaginaire à nous. Et vous, quelle utilité, quelle nécessité, quel sens vous avez voulu donner dans ce récit, à raconter cette expérience dans la ZAD en bande dessinée ?
C'est venu relativement progressivement. À la base, le projet n'était pas de faire une BD que sur la ZAD. C'était vraiment un essai illustré, un essai en bande dessinée sur les idées sur lesquelles je travaille depuis des années maintenant, la distinction entre nature et culture, le fait que le concept de nature soit une construction occidentale relativement récente et duquel il faudrait se défaire. Et j'allais sur la ZAD en me disant, j'en tirerais peut-être quelques illustrations possibles et matière à réflexion pour en vue d'un essai beaucoup plus général. Et finalement, ça a été un tel choc, un tel émerveillement, ce passage sur la ZAD, où je suis encore d'ailleurs, que finalement ça s'est transformé en bande dessinée sur la ZAD. Et l'aspect théorique est plutôt en arrière-fond du récit à la première personne de ce passage à Notre-Dame-des-Landes.
En fait, quand vous vous rendez dans la ZAD, vous y allez comme vous étiez allé au préalable en Amazonie, chez les Givaros.
Ouais, complètement. Et finalement, ma première BD, donc chez les Givaros, est presque, alors c'est un peu dur de dire ça, mais presque l'histoire d'une déception, parce qu'évidemment j'avais fantasmé, j'y allais parce que j'avais été fasciné par le récit de Philippe Descola, Les Lances du Crépuscule, où il décrit donc un peuple qui n'a pas de concept de nature et qui entretient avec les plantes et les animaux des interactions sociales. Et donc, les Indiens quotidiennement discutent, négocient, se séduisent, s'en veulent, s'engueulent, etc. avec les plantes cultivées, les plantes de la forêt, les animaux de la forêt. Donc évidemment, quand on part en Amazonie avec cette perspective-là, on construit un fantasme de l'altérité absolue. On s'imagine aller à la rencontre de gens qui discutent quotidiennement avec les bêtes. Donc on s'imagine quelque chose d'extrêmement l'altérité absolue. Et en l'occurrence, c'était pas le cas. Ça a été plutôt, alors décevant, enrichissant aussi, mais les relations que j'ai nouées avec les Givaros étaient finalement assez banales. Pareil, je continue à y aller régulièrement, c'est devenu des amis, mais ça n'a pas du tout été le choc escompté. Et là, cette BD sur la ZAD, c'est presque l'inverse, c'est le récit d'un émerveillement. J'y allais en n'attendant pas tant de choses que ça, sans doute parce que j'étais pénétré comme tout le monde par les clichés qui flottent autour de la ZAD et des ZADistes, et en l'occurrence ils ont été tout autant bouleversés que ceux que j'avais construits sur les Givaros, mais en sens inverse quoi.
Et les clichés que vous mettez en scène aussi dans cette bande dessinée qu'on peut avoir sur les zadistes, c'est extrêmement drôle. On est entre le punk à chien et les hippies écolos qui se seraient reconstitué une communauté là-bas. C'est pas ce que vous avez trouvé.
Non.
Vraiment.
En effet. Non, il y a eu de nombreux chocs. Bon, le principal peut-être, ça vaut le coup quand même de le dire, c'est qu'on se sans vraiment en arrivant, et c'est une impression qui ne nous quitte jamais, en tout cas moi je continue à y être et ça ne m'a toujours pas quitté, l'impression d'être vraiment ailleurs. C'est vraiment un monde autre. On se sent vraiment en permanence dans un endroit où le rapport au monde s'organise sur des bases qui sont différentes de celles qui sont en vigueur à l'extérieur, et c'est une sensation qui est extrêmement rafraîchissante et qui fait beaucoup de bien dans un monde qui s'uniformise chaque jour un peu plus et qui procure une forme de sensation de claustrophobie. On a l'impression qu'il n'y a plus d'échappatoire, et bien la ZAD en est un, et vraiment un quoi. Et en fait, cette sensation-là vient du fait que je découvrais d'un coup, vraiment en acte, ce que ça voulait dire au quotidien, ces idées qui jusque-là m'intéressaient d'un point de vue relativement théorique, la principale étant cette histoire de relation aux plantes, aux animaux et aux territoires, qui dans l'Occident moderne sont basés sur une relation d'utilisation, une relation de sujet à objet. La relation la plus spontanée, la relation par défaut avec les plantes, les animaux ou le territoire, est une relation d'utilisation, soit exploitation, soit protection. Mais la protection à l'occidental reste une forme d'utilisation. Donc soit on exploite, soit on fait un parc naturel. En gros, mais de toute façon, dans tous les cas, on est dans une relation de sujet à objet. Les plantes, les animaux et les lieux sont considérés comme des objets. Sur la ZAD, la relation par défaut, la plus spontanée avec le territoire et ses habitants non humains, est plus proche de la relation que les Indiens d'Amazonie ont avec le territoire. C'est-à-dire, c'est une relation de sujet à sujet, affective, où on tient compte spontanément de l'intériorité, des intérêts, de la vie interne des non-humains. Quoi. Et un des symptômes les plus flagrants de ça, enfin, c'est pas le seul, mais c'est que, par exemple, la notion de service écologique serait très incongrue sur la ZAD. Personne ne dira qu'on défend ce lieu parce qu'il nous rend des services. Personne dira qu'il faut protéger cette mare contre la police parce qu'on arrose son jardin avec, ou qu'il faut protéger la forêt de Rohan parce qu'on y pioche son bois. C'est simplement la forêt, les mares et tout ce qui les peuple sont considérés comme des voisins mêlés à la vie sociale locale et on considère comme impensable de se défaire d'eux. Quoi.
Ce que vous racontez aussi, découvrir, et c'est ce que vous avez fait d'abord grâce aux travaux de différents anthropologues dans les livres, que la nature est une construction aussi occidentale, m'a d'abord fait un choc. Moi qui m'étais toujours considéré comme un grand amoureux de la nature et qui envisageait sa protection via le parc national comme l'objectif à atteindre. On vous voit là au milieu d'un espace naturel, en train d'admirer sa cadeau sur les épaules, cette belle nature vierge, bien préservée des turpitudes humaines, et vous raconter qu'au prisme de l'anthropologie, la protection de la nature apparaît comme le prolongement indissociable de l'exploitation. Dans un cas comme dans l'autre, on attribue aux plantes, aux animaux et aux écosystèmes des fonctions au service des hommes. Alors pour bien comprendre, il y a un dessin d'un arbre. Avec son utilité, lui, il purifie l'eau et il piège le carbone. Un dessin d'une abeille, elle pollinise nos cultures. Un dessin d'un rossignol, d'un petit oiseau, oui, bon merci, hein, qui chante pour égayer nos balades, voilà. Une utilité pour chacun, là où, dans ce renversement de perception, dans cette nouvelle relation qui pourrait être tissée avec les non-humains, il y a l'idée que l'arbre pourrait être le pote, l'abeille le collègue, et le rossignol la famille. Ça, c'est des découvertes que vous avez aussi petit à petit faites. Est-ce que c'est ça qu'on appelle, de manière un peu plus savante, la nouvelle cosmologie, cette révolution cosmologique ?
Ouais, c'est ça. Si on appelle... si on désigne par cosmologie l'ensemble des structures en grande partie inconscientes qui façonnent et organisent notre rapport au monde, oui, c'est ça. C'est que dans l'Occident moderne, l'un des fondements cosmologiques, c'est la distinction entre nature et culture. L'idée que le progrès est passe par une domination de plus en plus grande de la nature et qu'on ait un rapport d'utilisation avec elle. Ça, c'est vraiment l'une des structures les plus fondamentales de notre rapport au monde, si fondamentale qu'elle est inconsciente, que si on n'avait pas les exemples que nous apporte l'anthropologie de peuples qui ne font pas cette distinction, on ne pourrait même pas la penser. Elle est si évidente pour nous que c'est même pas un objet de réflexion. Et donc, il s'agit d'une révolution, de défaire cette distinction-là. Ça relève de la révolution cosmologique. Et donc, un des propos de la BD, c'est que c'est vers ça qu'il faut aller, qu'il n'y a pas d'issue. C'est pas du tout raisonnable d'imaginer une issue à la crise écologique sans transformer notre vision du monde pour aller vers un rapport au monde où on considère spontanément tous les non-humains et le territoire comme des sujets. Donc on tient compte spontanément de leur intérêt. Ce qui est un mode de relation qui existe dans l'Occident moderne. Quand on discute avec son animal domestique, avec sa plante verte, quand un petit éleveur connaît chaque bête par son nom, se préoccupe de leur bien-être, etc. On est dans une relation de sujet à sujet. Simplement, c'est pas la relation dominante dans l'Occident moderne. Il y a des petites poches où ponctuellement on peut considérer une plante, un animal ou un lieu comme un sujet, mais il faudrait aller vers un rapport au monde où ce mode de relation-là est le mode de relation le plus spontané. Or, c'est pas une mince affaire, puisqu'il se trouve que dans l'autre peut-être pilier fondamental de l'Occident moderne, c'est qu'il y a une sphère économique, que les faits économiques ont été détachés de la vie sociale et la surplombe, et en gros la détermine. On prend les faits économiques comme des fins en soi. C'est devenu, d'ailleurs, de mettre les faits économiques au premier plan, un des modes de légitimation, de validation de l'action du pouvoir, de l'État. Or, une sphère économique autonome a besoin de considérer les plantes, les animaux comme des ressources. Elle a besoin de chiffrer, elle a besoin de se nourrir de relations quantifiables, de sujet à objet. Et donc, il n'y a pas, si on suit le raisonnement, il n'y a pas d'issue à la crise écologique sans démolir cette sphère économique qui surplombe l'Occident moderne et réintégrer les faits économiques dans la vie sociale. C'est exactement ce qui se passe sur la ZAD. Tous les échanges qui se tissent sur la ZAD et ailleurs, parce que la ZAD n'est pas du tout un lieu fermé comme on le pense parfois, c'est pas du tout une bulle, il y a des réseaux de solidarité qui s'étendent partout en France avec tout un tas d'autres territoires en lutte, des solidarités qui se tissent vraiment avec le reste du monde, et ces rapports-là, non marchands, non chiffrés, sont remis au premier plan, donc la sphère économique se dissout, et c'est ça qui libère un espace pour tisser d'autres modes de relations avec les non-humains. Quoi.
Des réseaux, vous dites aussi, avec d'autres territoires, d'autres communautés en lutte. En lutte contre quoi ? En lutte pourquoi ?
En lutte contre l'État, qui est le garant de cette indépendance des faits économiques, qui sont maintenant le principal moteur de la démolition du monde. Et donc oui, il n'y a pas d'issue sans aller à l'affrontement avec l'État, dont les intérêts, dont les représentants ont des intérêts qui sont beaucoup trop antagonistes avec les nôtres, en gros, et ceux du reste du monde, pour qu'on puisse imaginer la moindre forme de négociation ou de dialogue hors rapport de force avec eux. Donc c'est une des conclusions dont je me doutais un petit peu avant d'aller, mais qui s'est beaucoup renforcée depuis que je fréquente la ZAD, c'est qu'il faut aller à l'affrontement avec nos dirigeants de toutes les façons possibles, y compris ce que vous autres médias avez pris l'habitude d'appeler violence de façon un peu obscène, mais qu'il faudrait sans doute appeler légitime défense contre la brutalité de l'État. Il faut vraiment trouver tous les outils possibles pour aller à l'affrontement. Et le principe de ZAD me semble un des outils de lutte les plus efficaces, justement parce qu'on subtilise vraiment des territoires à l'action destructrice de l'État. Et on commence, disons, c'est une lutte contre, pour sauver des morceaux de territoire, mais en même temps, dans le même mouvement, on expérimente ce que serait un mode d'existence en partie indépendant de l'État. Quoi.
Détruire une zone où s'écrit l'avenir, dites-vous d'ailleurs dans
c'est
cette
bande dessinée. C'est pas moi qui le dis, c'est un personnage sur une barricade qui crie ça aux gendarmes.
Et vous le réappropriez ou pas, ces mots-là ?
Oui, je me le réapproprie.
Oui, ça reste une zone où s'écrit l'avenir,
j'espère.
À vos yeux. Dominique Bourg voit dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes les ingrédients d'un retour, lui, à la vie simple qu'il appelait de ses voeux, mais qui rappelle aussi que le projet d'aéroport a été abandonné. S'il l'a été, ce n'est pas pour des raisons écologiques. Écoutez.
Sans blague. L'abandon de Notre-Dame-des-Landes n'a été acquis absolument pas pour des raisons environnementales, hein, en fait. Ils ont réussi à faire basculer deux arguments qui étaient très importants. L'un, ça concernait le coût de la réflexion de l'aéroport de Nantes Atlantique. Ils ont montré que c'était trois fois moins cher que ce qui avait été prévu. Et le deuxième élément qui a fait basculer le dossier, c'est que la DGAC avait remis en 2013 des cartes sonores qui montraient, si vous voulez, que l'augmentation du trafic allait étendre l'empreinte sonore et en fait allait rendre indensifiable une partie de la ville de Nantes. Et en fait, en refaisant les cartes, en intégrant la signature sonore des nouveaux appareils et le renouvellement des appareils, on voit que l'empreinte sonore ne bougera pas, donc le sud de Nantes est tout à fait densifiable. C'est ces deux raisons-là qui ont fait basculer la question sur l'aéroport. L'environnement, la biodiversité, le climat, vous pouvez les mettre de côté. Ça n'a absolument joué aucun rôle. Et là où il pourrait jouer un rôle, à mon avis déterminant, c'est effectivement en acceptant le meilleur de ce que demandent les zadistes. Et il y a des choses très intéressantes dans ce qu'ils demandent, notamment effectivement la question des communs. Alors évidemment, on ne va pas changer d'emblée le droit, mais on peut trouver, s'il y a des moyens termes, pour leur permettre d'initier ce genre d'expériences qui sont extrêmement intéressantes et qui vont dans le sens justement d'une vie plus simple et d'une nouvelle terre.
Un laboratoire, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où se joue un nouveau rapport à la civilisation, voire une nouvelle civilisation, c'est ce que disait Dominique Bourg, c'est ce que disent également d'une certaine manière Bruno Latour dans Où atterrir, ce que dit aussi Philippe Descola ou un Pablo Servigne. Ça, ce sont des témoignages qui nous reviennent aussi de cette expérience qui se joue là-bas. J'en reviens à ce que vous disiez à propos de l'État. Pourquoi l'État, finalement, ne laisse pas cette expérience se faire ? Pourquoi l'État l'État est-il le non-garant de ce qui se joue là? Ce rapport de force que vous mettez en scène dans la bande dessinée et dont on ne comprend pas vraiment en quoi ça dérange.
Ouais, parce qu'il en a peur. Ça a été une des autres découvertes, c'est que cette invraisemblable violence qui a été déchaînée contre la ZAD et qui l'est encore. Maintenant, c'est une violence principalement administrative, même si de temps en temps, les gendarmes viennent encore ponctuellement démolir des trucs. Mais on ne peut pas la comprendre, à mon avis, autrement que comme étant motivée par la peur. La peur des dirigeants, que en l'occurrence, si maintenant, depuis les années 70, ils ont le pouvoir à développer tout un tas de stratégies très efficaces pour démolir de l'intérieur les mouvements sociaux abstraits, disons déterritorialisés. C'est ce que raconte très joliment Grégoire Chamaillou dans La Société Ingouvernable, comment maintenant ça fait plus tellement peur aux grands industriels les mouvements de boycott, toutes les formes. Par contre, un mouvement qui s'ancre sur un territoire, qui reprend un territoire, la ZAD ou les ronds-points dans une certaine mesure, ils n'ont pas les outils pour lutter contre. Et par ailleurs, le fait qu'on y invente réellement une vie qui se ait un rapport au monde, alors pas plus simple, l'extrait qu'on vient entendre, parlait d'une vie simple, mais en l'occurrence, la gestion commune. Alors, faudrait pas utiliser le terme de gestion, mais les communs, c'est pas du tout plus simple. C'est tout aussi structuré et complexe, voire beaucoup plus. Donc, c'est pas une vie simple. Mais par contre, que des gens prouvent en acte que, en gros, une des histoires de légitimation que raconte maintenant, à laquelle se raccroche en ce moment l'État et ses représentants, qui est qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'autre voie possible. Certes, c'est pas idéal ce qu'on est en train de faire, mais c'est ça ou pire, que sur un territoire, il y ait la démonstration en acte que c'est faux, qu'on peut tout à fait interagir différemment entre humains et avec les non-humains. Évidemment, ça fait peur, mais c'est assez surprenant. On sent qu'ils sont tellement puissants par rapport à nous, en gros, que c'est étonnant, ouais, qu'ils aient pas laissé. On se dit, c'est 2000 hectares. Pourquoi prendre le risque de tuer? Parce que c'est ça. Ils ont pris un risque politique énorme. C'est quasiment miraculeux qu'il n'y ait pas eu de mort pendant la dernière. Et d'ailleurs, encore une fois, pour revenir sur l'extrait qu'on vient d'entendre, il y a deux raisons à l'abandon du. C'est gonflé. Il y en a. La principale, c'est quand même la résistance des zadistes. C'est quand même ça la motivation première. Après,
ils parlaient, Dominique, pour parler dans les rapports des experts aussi, et non, dans ce qui a pu techniquement motiver aussi l'État à abandonner ce projet. Et il en était assez critique, parce qu'il disait, voilà, arrêtons de penser que c'est pour des raisons environnementales ou écologiques que le projet d'aéroport a été abandonné. C'est pour des histoires de coûts et pour des histoires de niveau sonore que ça aurait pu
Ça, c'était une consolation a posteriori. C'est qu'à un moment, ils se sont rendus compte que c'était infaisable, qu'avec la résistance qui s'était mise en place, il n'y avait pas de possibilité de construire. Après, ils sont sans doute consolés avec des raisons chiffrées, mais la principale est quand même celle-là.
Ce qui est quand même étonnant, c'est que dans le même temps, on fait la COP21, on parle de lutter contre le réchauffement climatique, on parle de trouver aussi des solutions pour une transition énergétique et écologique. Pourquoi ne pas aller chercher là-bas les bonnes idées à prendre?
Parce que ça nécessite... Si les ZAD, c'est vraiment ce que je souhaite, à mon avis, c'est pas complètement implausible comme perspective. Si des ZAD commencent à fleurir et à s'étendre un petit peu partout sur le territoire, c'est une remise en question vraiment de ce qui constitue l'ossature de l'existence de nos dirigeants, quoi, et dont les intérêts sont si antagonistes à ceux du reste du monde. L'idée, tout ce que vous venez de citer, la transition écologique, les énergies vertes, les COP21, etc., je pense pas que parmi eux il y ait grand monde qui croit à ça, quoi. Je pense que si un anthropologue extraterrestre venait à étudier les humains sur Terre, il ferait pas grande différence entre ces histoires d'énergie verte qu'on nous raconte en Europe et le climato-scepticisme aux États-Unis, quoi. Dans un cas comme dans l'autre, c'est un récit qui légitime l'action d'un État. Aux États-Unis, le climato-scepticisme a bien pris, donc ça suffit, on nie en bloc la réalité en disant qu'on continue tout comme avant, de toute façon, le réchauffement climatique, c'est un complot des Chinois. Chez nous, ça n'a pas bien pris, donc il a fallu inventer quelque chose d'un tout petit peu plus subtil, mais qui est aussi absurde. L'idée qu'on va s'en tirer en construisant des éoliennes, à part le fait que les rendements sont à peine meilleurs que les énergies traditionnelles et à peine moins polluants. De toute façon, le capitalisme en gros, quoi, est incompatible maintenant avec la moindre question écologique un peu sérieusement posée. Donc c'est des récits de légitimation, mais je pense pas que grand monde y croit. D'ailleurs, Dominique Bourg dit c'est pas pour des raisons écologiques qu'on a abandonné l'aéroport, mais je crois que sur ce coup-là, il y a aucun dirigeant qui a eu l'outrecuidance de prétendre le contraire. Ils ont pas tellement mis ça en avant, quoi.
Bah, il y avait quand même Nicolas Hulot, qui était alors ministre de la Transition écologique, qui était à la manœuvre et qui était, lui, favorable.
Il n'était pas à la manœuvre, il est venu faire le guignol
du projet. Ça, c'est vous qui le dites. Et qui disait aussi qu'attention, dans cette ZAD de Notre-Dame-des-Landes, le Larzac était pas reproductible là-bas. Voilà, c'était les mots à ce moment-là, hein, sur cette démarche-là. J'aimerais qu'on en revienne, puisque vous, vous y vivez, puisque c'est aussi un témoignage et un compte-rendu de ce qui se joue là-bas, en ce moment, que vous nous rapportez, que vous nous expliquiez. À quoi ça ressemble, en fait, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes? Quelle autre manière d'habiter ce monde? Ils sont défendus. Ça a quelle largeur, quelle longueur? Comment ça se passe? Comment ça se compose?
Ouais, c'est des... C'est-à-dire, c'est pas une communauté, déjà, c'est pas du tout un groupe homogène, c'est plein de petits groupes répartis sur 2000 hectares, très différents entre eux et à l'intérieur des groupes, mais je sais pas, là, peut-être une question un chouïa plus précise, parce que là, vous me demandez à quoi, mais bon, déjà,
j'aimerais
c'est
que
peut-être
vous nous
important.
Emmiez là-bas, ouais, vraiment.
C'est peut-être important de dire qu'elle existe encore, parce que c'est une anecdote que je raconte en passant dans la BD, et ça continue. Dès que je dédicace cette BD, ou que j'en parle, il y a toujours des gens qui me disent « mais il n'y a plus de ZAD, le projet d'aéroport a été abandonné », alors que effectivement, finalement, c'est presque beaucoup plus important ce qui se passe maintenant. Le fait que cette ZAD continue à exister malgré l'abandon du projet d'aéroport, c'est presque plus déterminant pour l'avenir que quand il s'agissait de lutter contre un aéroport. Et donc disons, à première vue, quand on arrive et qu'on se pose dans une ferme, par exemple, où on développe une agriculture sans pesticides, là ils sont en train, certaines fermes sont en train de passer à la traction animale, on peut se dire bon, ils ont pas inventé grand chose, il y a plein d'endroits en France où il y a des lieux comme ça où on fait du bio, etc. La première chose qui marque un petit peu, qui fait bizarre, c'est quand on se rend compte de l'espace qu'on a autour de nous, c'est qu'on est certes dans une ferme où les choses se passent comme ça, avec un comité, avec des gens qui à la fois sont agriculteurs, qui vont s'occuper de leurs légumes le matin et faire des films d'avant-garde l'après-midi et parler philosophie politique le soir. On est dans un endroit comme ça, on se dit bon, j'en ai déjà vu d'autres, mais on fait une demi-heure de vélo et on tombe sur un autre endroit similaire, à la fois différent et similaire, puis un autre, et d'un coup on a une impression d'espace qui s'étend autour de nous, et c'est là qu'on a vraiment une première expérience de la ZAD, c'est que malgré tout 2000 hectares c'est pas grand chose, mais c'est quand même grand, quoi. On a quand même la sensation que on n'est pas dans une toute petite enclave où il se passe avec des gens plein de bonnes intentions qui font un truc, c'est vraiment l'ébauche d'un monde qui est en train de se façonner, et aussi le refus, et là c'est tout l'enjeu en ce moment, c'est de réussir à établir une façade légale qui accepte les règles imposées par l'État, notamment les règles économiques. Et c'est extrêmement difficile d'accepter ces règles sans démolir ce qui s'est construit sur place. C'est ce que je disais au début, c'est que l'établissement de rapports affectifs et où on considère les plantes, les animaux et le territoire comme des sujets n'est possible qu'à condition de se défaire de l'emprise de la sphère économique. Et du coup, là, c'est le sujet de beaucoup de discussions sur place. C'est extrêmement complexe de réussir à donner l'illusion qu'on se légalise tout en conservant les modes de relation tant entre humains qu entre humains et non humains qui se sont établis sur place. Par exemple, là, un des gros enjeux, c'est la forêt qui légalement devrait aller à l'ONF et qu'évidemment les habitants de la ZAD ont envie de continuer à prendre soin d'elle, notamment parce qu'il y a tant de liens affectifs qui se sont tissés avec elle que ça serait vraiment les amputer d'une composante essentielle de leur vie sociale et affective si on les chassait de cette forêt, quoi.
Permaculture à la ZAD, extrait d'une vidéo des zadistes radicaux, Radi & Co, qui n'avait pas vraiment trouvé de preneur sur YouTube et qui a été partagé par d'autres biais depuis de manière assez importante.
La révolution, c'est les mains dans la terre.
Tu prends l'énergie de la terre et tu l'amènes au ciel.
La permaculture, pour moi, ça englobe aussi plein de choses. C'est-à-dire que c'est pas juste le jardin, c'est aussi une façon de vivre. Permaculture, quoi, tu vois. Une façon de déconditionnement dans nos manières de vivre, dans nos manières de faire. Tout en restant, pour moi, quand même, dans la réalité, quoi. C'est-à-dire regarder des pieds cartésiens et puis essayer de se dire, on est quand même là pour bouffer. Moi, je suis très content de passer du temps au jardin pour avoir nos légumes, tu vois.
On a beaucoup, beaucoup de chance parce que tous les champs qu'on squatte pour pas plus de 5 hectares, ils sont tous bordés de haies forestières qui sont des putains de corridors végétaux magnifiques pour la faune et la flore. Il suffit vraiment en plus de pas grand chose pour avoir un jardin splendide, hyper prolifique. Tu fais des cultures sur but. Nous, on avait balancé plus 50 pieds de tomates, on avait des cagettes de tomates tous les jours et c'était pas énormément d'entretien, quoi.
Plus qu'une tonne de patates cette année.
Aller chercher la nourriture dans un arbre, faire des recherches, s'y connaître en ceci, en cela.
Les poireaux et la carotte, ben je parle de ces deux légumes-là parce que c'est des légumes qui vont s'entraider mutuellement. Ils se repoussent les mouches. Les mouches de la carotte et du poireau, ça peut ravager toute une culture. Je veux dire, si t'as que des poireaux, ben il y a la mouche qui arrive, et ben boum, ça va ravager toute la culture. Que là, t'auras plusieurs légumes entre eux, ben ils vont s'entraider.
T'as juste une autorégulation du truc, quoi. T'as pas besoin de l'action de l'homme. Une fois en fait qu'elle est lancée, dès que t'es en sous-bois, que t'arrives à avoir les quelques fruitiers, après t'as les buissonneux, les framboisiers, machin, cassis, puis t'as les buttes. En fait, t'as un système où t'as plus à foutre de flotte dans l'histoire.
C'est plus de l'exploitation, c'est de l'harmonie, en fait.
C'est ça.
Vous vous y retrouvez? Alessandro Pinocchi, vous retrouvez une partie des voix aussi que vous venez d'entendre?
Bah, je suis pas sûr. Pour le coup, j'ai tendu l'oreille, mais c'est sans doute pas Enfin, je sais pas où a été faite cette vidéo, mais c'est sans doute en partie des endroits qui n'existent plus. Mais j'ai pas entendu ce qu'elle a dit à la fin. C'est plus de l'exploitation, mais effectivement, c'est des termes.
C'est de l'harmonie.
Ah, ok. Mais
pourquoi vous vous y retrouvez en partie?
Non, pire, sans doute complètement, mais c'est pas. C'est en tout cas oui le sortir du rapport marchand, enfin c'est des banalités, mais c'est en l'occurrence c'est des banalités qui ont pris que quand on les entend dans une conversation de comptoir de dire s'extraire des rapports marchands chiffrés etc, c'est vraiment une tarte à la crème, mais qui prend quand on vit sur place une dimension beaucoup moins rhétorique, quoi, et beaucoup plus essentielle, parce que c'est ça qui c'est sortir du rapport comptable et de la notion, encore une fois, de service écosystémique, de sortir de la façon spontanée. J'ai encore entendu, je ne sais plus si c'était sur France Inter ce matin, l'auteur qui vient des...
Je ne sais pas, moi j'écoute France Culture, c'est beaucoup plus simple. Oui, mais dites-nous.
Je pensais que vous étiez potes.
On est tous potes, hein, vous savez bien, c'est les médias, le média. Oui.
L'auteur qui a écrit le best-seller La vie secrète des arbres et qui lui aussi se sentait obligé de justifier, de dire, ben voilà, si on n'a plus d'abeilles, ça va coûter tant, ça va être le PIB de 3 États, je crois qu'il disait, parce qu'on devra polliniser, je ne sais pas comment, avec des petits drones, et les forêts sont essentielles parce que... Et on se sent obligé de justifier l'existence des abeilles et des forêts en fonction des services qu'elles nous rendent. Et à mon avis, c'est extrêmement néfaste de faire ça, parce que ça entretient justement une vision d'objet. On a l'impression que ces êtres n'existent que parce qu'ils nous rendent service. Et si on trouvait un moyen pas cher de remplir les mêmes services écologiques, on pourrait les détruire sans aucun scrupule, quoi. Et sur une ZAD, ou évidemment en Amazonie, cette vision-là sonnerait aussi choquante que si on disait, voilà, j'ai des voisins humains, que j'apprécie dans la mesure où ils me rendent des services de temps à autre, mais si jamais j'avais plus besoin de ces services-là, ben on pourrait les abattre, ça posera aucun problème, quoi. La clé de le monde vers lequel on bascule quand on est sur une ZAD, qui est finalement beaucoup plus évident, c'est juste ils sont essentiels à une vie joyeuse et un peu intense sur Terre. On n'envisage pas du tout une existence avec moins d'abeilles, moins de forêts, etc., parce que simplement elles sont aussi essentiel que les autres dimensions de la vie sociale à une existence un tant soit peu agréable et intense, quoi.
Mais plutôt qu'une approche utilitaire du rapport à la nature, ce que défend Peter Volleben que vous citez, c'est quand même aussi d'abord une approche qui montre les interconnexions qu'il peut y avoir à la fois entre les humains et les non-humains, et montrer que ce monde est comme un grand réseau et que tout est interconnecté. Donc ça s'approche aussi de ce que vous défendez.
Non, évidemment, mais du coup, c'est ce qui est marrant et significatif,
le
c'est quand même...
Le grand tout, ouais.
Dont je me moque, attention.
Vous moquez beaucoup, oui.
C'est que même un discours qui part, qui est d'une personne qui j'imagine a des... C'est ça qui est significatif. C'est une personne qui j'imagine a tissé des liens affectifs avec des forêts et ses habitants, se sent quand même obligé, en fin de discours, de mettre les services écologiques en avant, comme s'il n'y avait que ça qui pouvait justifier une forme de protection à l'occidental, encore une fois, quoi.
Et vous êtes qui dans cette affaire, Alessandro Pinocchi? Un anthropologue ou un militant? Cette question du statut du regardeur s'est posée cette semaine récemment, dans un contexte qu'on peut déplacer un tout petit peu à côté. Il a été arrêté pour un doigt d'honneur, interdit de couvrir des manifestations jusqu'à la tenue de son procès. C'est Gaspard Ganz qui couvrait, comme journaliste, sans carte de presse, des manifestations de gilets jaunes. Il était passé par la ZAD aussi auparavant, vous vous y êtes peut-être croisé. Alors journaliste ou militant, voilà ce qu'il disait hier.
Je suis pas militant, je suis plus militant depuis l'Union nationale lycéenne, j'avais 17 ou 18 ans, je viens d'en avoir 32, j'aimerais vraiment qu'on passe à autre chose, quoi. Genre, mon métier depuis 10 ans, exactement depuis ce mois d'avril, c'est journaliste à 100%, c'est mon métier, j'ai rien fait d'autre, et je mis quiconque au défi de trouver qu'est-ce que j'ai fait de militant sur ces 10 dernières années, quoi. Rien de rien de rien, parce que justement, je sais qu'on m'attend là-dessus, on me dit ça depuis que j'ai commencé à faire le journaliste, c'est vous êtes pas journaliste, vous êtes militant, vous êtes pas journaliste, vous êtes militant, etc. Et mon boulot tout le temps, c'est d'essayer de montrer que non, je fais un travail de journaliste, non, je respecte les règles.
Gaspard Ganz, jamais vraiment eu de contact avec le milieu militant, c'est ce que vous racontez vous dans la bande dessinée, la recomposition des mondes. Quand vous arrivez à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, deux jours avant l'évacuation de la ZAD par les forces de l'ordre, vous comptiez encore les tritons dans les mares avec les naturalistes. Et puis face aux barricades, dans un tir de grenade, vous vous dites « si je me prends des éclats de grenade, j'irai exhiber mes blessures aux journalistes et je parlerai du petit jardin du monde ». Nous y voilà. Le pourquoi vous y êtes allé là-bas et comment vous avez pu peut-être évoluer dans cette situation vous-même.
Du coup, je ne saurais pas dans quelle case mettre une croix si je devais choisir entre anthropologue et militant. Mais c'est marrant la défense de Gaspard Ganz de dire « je ne suis pas militant, je suis journaliste ». On aurait tout à fait pu imaginer une défense inverse en disant « certes, je suis militant, mais comme tous les journalistes ». L'idée d'objectivité...
Il l'a eu aussi.
Hein. Ouais, l'idée d'information objective est déjà complètement naïve et absurde en sciences dures. Alors, pour retracer hein, des manifs ou ce qui se passe sur une ZAD, l'idée qu'il puisse y avoir un regard objectif est vraiment est complètement ridicule. Donc,
mais la plupart des anthropologues qu'on reçoit autour de cette table rappellent quand même l'importance de la bonne distance. Évidemment, il y a de la subjectivité. Évidemment, il y a aussi des affects qui entrent en jeu dans toute enquête.
C'est deux choses différentes. On ne va pas mélanger... Alors, je ne sais pas si beaucoup d'anthropologues parlent encore d'objectivité, mais le travail de l'anthropologue est celui du journaliste. C'est quand même de...
Non, mais donc j'en reviens à votre travail, à vous. Est-ce que vous avez chercher quand même à garder une distance ou est-ce que vous ne vous vivez plus comme un anthropologue aujourd'hui et d'abord comme un militant ?
Les deux, mais dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas de distance. C'est dans un endroit comme la ZAD, prétendre une forme d'objectivité hein, sur la ZAD ou n'importe quoi d'autre. Encore une fois, je viens de la recherche en sciences cognitives et déjà on sait qu'il n'y a absolument pas d'objectivité, qu'on fait dire aux chiffres ce qu'on veut et que l'idée de rapporter objectivement des faits est absurde. Donc dans une situation comme celle-là, ça l'est encore plus. Et d'ailleurs, quand on vit les choses de l'intérieur, on prend vraiment conscience dans sa chair de à quel point n'importe quel journaliste de grands médias est un militant aussi, qu'il défend une vie, souvent sans s'en rendre compte, en partie inconsciemment, une vision du monde et un ordre du monde qui lui est évident et c'est du militantisme. Quand je vois sur l'horloge qu'il me reste une minute, peut-être que je pars dans un...
Même pas.
Ah ouais, dans un sujet un peu vaste, mais quand un journaliste dit le gouvernement, les dirigeants n'arrivent pas à faire baisser le chômage, par exemple. On a l'impression que c'est complètement objectif, mais c'est du militantisme extrême, parce que ça sous-entend que le gouvernement essaye, ce qui est une position... Si on l'aborde avec les outils des...
Mais laissons les journalistes expliquer leur position, leur regard qui porte sur le monde, subjectivité, objectivité, militantisme, neutralité, etc. Juste, vous, est-ce que vous êtes encore un anthropologue ? Est-ce que vous avez abordé aussi
je l'ai jamais vraiment été, mais oui, si on accepte que l'anthropologue n'est pas du tout objectif, pas plus que n'importe qui d'autre, oui, je suis encore un anthropologue.
En tout cas, visiblement, vous l'acceptez. Merci beaucoup, Alessandro Pignocchi. La recomposition des mondes, votre bande dessinée, très très belle par ailleurs aussi sur le dessin, vient de paraître au Seuil dans la collection Anthropocène. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table pour cette belle et longue semaine, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez et Jean-Christophe Brivonchon pour La Grande Table des idées, à Auriane Delacroix, Henri Leblanc et Jeanne Copé pour La Grande Table Culture avec l'aide précieuse, très précieuse de Mathilde Tonfourcade et d'Antoine Suzarelli. À la réalisation aujourd'hui, c'était Marie Placet avec Alex Dang. Très bel après-midi et très bon week-end sur France Culture.